France Musique. France Musique, les grands entretiens. Benjamin François.
Florence Malgoire, née un 9 mars après minuit à Dugny, et je suis violoniste.
Dans le premier épisode, on a suivi Florence Malgoire dans son enfance. Elle a découvert le violon baroque. Et suite à un stage avec Marie Léonard, elle s'en va étudier le violon baroque avec Sigiswald Keuken à La Haye.
Quand je suis arrivée, c'était un grand choc. Parce que de lâcher la mentonnière, jouer sur du boyau, parler avec l'archet, faire des consonnes, des voyelles avec l'archet, la courbe mélodique, la faire avec l'archet et plus avec la main gauche. Aller chercher des partitions dans la bibliothèque. Sigiswald Keuken, comme tous les pionniers, étaient des autodidactes. Ils étaient bien sûr aidés par les musicologues, par les luthiers, par tous les chercheurs, bien sûr. Mais il fallait une sacrée énergie pour aller dénicher les partitions à cette époque-là. Et donc, Sigiswald, son enseignement, c'était « Maintenant, vous allez être autonome et vous allez faire comme moi ». Dans l'imitation du maître au disciple. Moi, j'étais habituée à voir ma maman Paulette Travez, ma seconde maman, qui me mettait toutes les dynamiques en rouge, en bleu, en vert, les doigtés. Et là, plus question de doigtés, plus question de dynamique. Et des dynamiques viennent très tard dans l'histoire de la musique. Donc, lire les partitions, apprendre à lire en classe de première, bon, ça, c'est pas très grave pour la musique française, ça se fait assez vite. Mais simplement apprendre, tous les ornements, apprendre à improviser la musique italienne, apprendre les ornements français, apprendre à lire les traités, aller dénicher des partitions, et puis s'imprégner de tout ça. Ça faisait tellement d'informations. Moi, je pensais que... En plus, je me disais, c'est quand même moins difficile que la musique romantique, ça va aller tout seul, on ne monte pas beaucoup dans les positions. Je ne m'inquiétais pas trop, en fait. Je me disais, le swing de cette musique était tellement... Voilà, ces personnes tellement éveillées, tout ça. Voilà, je n'avais pas du tout mesuré là où j'allais. Donc, Sigiswald, qui ne parlait pas trop en cours et qui attendait de nous que ce soit nous-mêmes qui décidions de notre interprétation... qui soyons créatifs et de décider de tout, en fait, de comment on allait jouer, comme lui le faisait. Ça, c'était déstabilisant. Mais après, jouer avec lui dans l'orchestre, alors là, l'exemple, il était sous les yeux, quoi. C'était l'évidence, quoi, de devoir juste imiter son geste.
Mais vous décrivez peut-être un chef qui ne veut peut-être pas être trop directif. D'ailleurs, c'est une qualité qu'il partage avec Jean-Claude Malgoire.
C'est vrai. C'est vrai. Bon, Sigiswald, il dirigeait souvent du violon, mais c'est vrai qu'il n'était pas directif du tout. Il parlait philosophie plus que musique. Jean-Claude, il insufflait une telle énergie. Il aimait beaucoup, une fois j'avais dit de lui, et je le redis, qu'il est comme un peintre, qui peut faire des pleins et des déliés, mais aussi qui a le sens de l'œuvre, de la fresque dans son entier. Et puis du théâtre aussi, c'était un homme de théâtre. Et une énergie considérable. Et il était vraiment chef, dans le sens que c'est lui qui avait les rênes absolues. Pendant les répétitions, c'est toute autre chose. C'était un laboratoire et tout le monde pouvait dire son idée. C'était toute une cuisine. Et au concert, il osait l'émotion. Et c'était, je pense, le concert à chaque fois sacré pour lui. Il n'avait pas peur, quoi. Enfin, je pense qu'il devait avoir le trac comme tout le monde, plus en tant qu'instrumentiste, je pense qu'en tant que chef d'orchestre. Mais c'était un moment unique, un moment de grâce.
Est-ce qu'il n'y avait pas un petit côté ayatollah de l'archet chez Sigiswald Keuken? Est-ce qu'il n'était pas un peu une espèce de dieu vivant du violon baroque pour toute cette génération?
Oui, oui, c'était un dieu vivant. C'est un dieu vivant, d'ailleurs.
Il dit toujours, on précise.
Il dit toujours. Mais je trouve que sa pédagogie est remarquable parce qu'il laissait avoir sa personnalité. Après, c'était à chacun de se positionner. Dans ma promotion, il y avait Enrico Gatti, il y avait François Fernandez. François, il était beaucoup plus dans la posture que Sigiswald. Moi, je l'ai jamais été vraiment, en fait. Je pense qu'il me respecte beaucoup. Je suis pas du tout un élève modèle. Hein, j'ai très vite pris ma liberté aussi. Et puis, je vois, je sais pas, Mira Glodeanu ou Chiara Bianchini, c'est des vraies personnalités. Donc après, je pense pas que consciemment Sigiswald ait cherché à avoir des clones. Bon, des fois, je me disais, oh là là, je reviendrai bien quand même au concerto romantique. Mais bon, voilà, c'était...
Au moins, on se pose moins de questions, c'est plus évident. Bon,
voilà, on se pose moins de questions.
Décrivez-nous, Florence Malgoire, l'année que vous avez passée à La Haye, la petite Française de la Courneuve qui débarque aux Pays-Bas. Ça s'est passé comment ?
Alors, après la Courneuve, j'étais à Montmartre. Ça, c'était rêvé, parce qu'entre les cours par correspondance et puis découvrir Paris l'après-midi qui mettait un temps libre, voilà. Mais la petite Parisienne a été très bien accueillie. Par tous les professeurs là-bas et Sigiswald qui venait quand même somme toute rarement. Donc au début, je me suis installée à La Haye et puis finalement, j'ai fait les allers-retours. Donc à l'époque, c'était le train de nuit, tout le monde faisait, mais c'était un train de nuit quand même. Et le matin, quand je me réveillais, je pouvais jouer dans le compartiment du violon. C'était vraiment une autre époque. Hein.
Donc en fait, vous n'avez pas pris pied à La Haye. Ça vous plaisait moyennement, cette ville du Nord, où vous désiriez conjuguer les plaisirs et parisiens et les études à La Haye ?
Oui, j'avais déjà très tôt une vie professionnelle, et puis j'avais mon amoureux à Paris. Et voilà, c'était... Et puis je trouvais la nourriture aussi, j'étais habituée à bien manger quand même. Il n'y avait pas tant de cours que ça, c'était pas aussi régulier comme ça peut l'être aujourd'hui dans les conservatoires. À l'époque, on devait être plus autodidacte. Hein, on n'avait pas non plus les références en un clic, et on n'avait pas les portables, bien sûr, pas les ordinateurs, donc on vivait vraiment très différemment. Alors c'était formidable parce que moi, du coup, comme j'aime beaucoup voyager, c'est bien tombé avec ce métier d'ailleurs, j'allais très souvent à Bologne, j'aime beaucoup Bologne, donc je trouvais toujours un prétexte pour aller à la bibliothèque de Bologne. Parfois, elle était fermée parce que en travaux, donc fallait attendre plusieurs jours. Fallait trouver le conservateur qui finalement nous ouvrait. Enfin, c'était romanesque.
Thank you.
France Musique, les grands entretiens de Florence Malgoire.
Est-ce qu'il y avait entre les jeunes femmes comme vous qui étaient à La Haye en train d'étudier avec Sigvald Koeken, je pense à Marianne Müller, je pense à Sylvia Abramovic, la maman de Thomas Dunford, gambiste. Est-ce que vous aviez conscience d'être des Françaises à La Haye? Est-ce que vous serriez les coudes? Est-ce que vous rigoliez sous cap de ce que vous voyez chez les Hollandais? Comment ça se passait?
On était très très bienvenus, il y avait beaucoup de Belges aussi, qui parlaient flamand, français. C'était un peu dur même d'apprendre le hollandais, c'était quasi impossible parce qu'on nous parlait en français, la plupart du temps, et dans les magasins, hein, dans la vie quotidienne.
Dans les cadors du violon baroque de l'époque, on est à la fin des années 1970. Vous nous avez décrit Sigvald Koeken, vous auriez pu aussi choisir d'aller étudier à Amsterdam avec Marie Leonhardt, l'épouse de Gustave.
Oui, et c'est la vie, elle est faite de rencontres. Il s'est trouvé que j'ai fait ce stage à Bremen avec Sigvald Koeken, et c'est lui, en quelque sorte, il m'a pas donné le choix. Et enfin, si j'avais le choix, bien évidemment, mais il m'a dit, je te prends dans ma classe. C'était un rêve pour moi. En plus, Sigvald Koeken, on peut pas imaginer plus différent de ce que je connaissais du méridional. Là, c'était le flamand, une toute autre façon de penser, de voir le monde, d'autres valeurs, une autre façon de manger. Oh là là. Quand je suis arrivée dans sa classe, il mangeait macrobiotique. Alors, évidemment, je venais d'une éducation à manger la daube et la soupe au pistou. Donc, c'était vraiment un autre monde. Et puis, très intellectuel. Moi, j'ai toujours abordé la musique d'une manière très physique,
sensuelle.
Spontanée, sensuelle. Et donc, bon, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça a remis tout à plat. Et j'étais pas du tout préparée à ça. C'était très déstabilisant pour moi. J'avais l'impression que tout ce que j'avais appris, c'était terminé, quoi. Je n'avais absolument pas conscientisé que la grammaire, même visuelle, n'était pas la même à toutes les époques. Que la musique italienne du XVIIe siècle, il y avait très peu de choses écrites parce que l'imprimerie, ça coûtait très cher et que c'est pour ça que les musiciens improvisaient. Je n'avais pas conscientisé que le continuiste, les continuistes que j'admire tant, les clavecinistes qui improvisent sur une grille, qui sont des véritables créateurs, comme dans le jazz, j'ai découvert tout ça en même temps, et c'était une sacrée claque, parce que il fallait changer la posture, changer la technique de main gauche, la technique d'archer, lire autrement les partitions, ne plus croire ce qui est écrit. Dans la musique française, s'il y a des notes égales, ben non, elles sont pas égales, elles sont inégales, tout est inégal. La hiérarchie des temps, apprendre les danses aussi, en jouant avec le pouce sous la hausse. Sigvald nous faisait jouer aussi sous la clavicule, bien sûr, parce que la première fonction du violon, c'était de faire danser.
Vous avez équipé votre premier violon encore dans boyau, quand vous vous êtes décidé pour prendre un archet baroque. C'est des choses qui se faisaient facilement à l'époque. On trouvait un luthier suffisamment aguerri pour faire tout ça.
Oui, alors il y avait Pierre Jacquier, dit Mathias, qui m'avait fabriqué mon violon, qui était mon luthier, qui est décédé il y a quelques années. Merveilleux, merveilleux, qui cherchait beaucoup, qui faisait des instruments absolument magnifique. On est un bon nombre de musiciens à avoir de ces instruments. Et oui, c'était un travail très étroit avec les archetiers, puisque si on commence à jouer la musique italienne du début du XVIIe siècle, on va avoir un tout petit archet très léger pour faire les diminutions, les ornements de l'époque et les improvisations. Et puis de plus en plus, l'archet s'allonge. Donc, si vraiment on veut éprouver les articulations, les styles, il va être nécessaire d'avoir un bon nombre d'archets. Si la forme du violon a été parfaite à la fin du XVIe siècle par la famille Amati, il y a eu quelques transformations, bien sûr, du violon, mais surtout, l'archet a énormément évolué. Entre l'archet fin XVIe et l'archet Mozart, c'est tout un monde. Hein. C'est du petit archet, on passe à l'archet long. Donc le parcours du violoniste qui met un doigt de pied dans ce domaine, il est vite pris des pieds à la tête parce que c'est énorme en fait.
Une fois que vous revenez de La Haye, et par rapport à ceux qui étaient restés en France à étudier avec Gilbert Bézina, je pense à Bernadette Charbonnier, Jean-Louis Charbonnier gambiste, François Fernandez, ils vous regardent comment ?
Oh, ils me regardaient très bien parce que j'étais très jeune, j'étais... Oui, parce que très jeune, j'étais comme François. D'ailleurs, François était là avec moi, on était de la même promo.
C'est presque votre frère, François.
François, c'est presque mon frère. On a un mois d'écart. Et puis, il a perdu sa maman. Il avait 18 ans. Donc, j'étais très proche de lui. Mon père aussi, il a beaucoup aidé, je pense. Il a été très proche. Sa maman est morte d'un cancer. Elle était organiste.
Arlette Eudron.
Arlette Eudron, voilà, que j'ai connue, qui était une grande amie de Scott Ross. Donc, voilà, François, il avait besoin d'amis. Et il a trouvé, je peux pas parler à sa place, mais de mon regard, Sigiswald a été vraiment le père spirituel, la famille d'adoption, et Marlène, son épouse aussi. Voilà. Et c'est vrai que, comme il y avait des petites moqueries pour répondre à votre question, parce que entre les Français, les Hollandais, les Belges, ce n'était pas la grande, c'était de la concurrence, en fait. C'était pas la même ambiance, du tout.
Et puis, quand on dit français pour Gilbert Bézina, c'est la France du Sud.
C'est la France du Sud, voilà.
Parlez-nous, Florence Malgoire, de vos débuts dans Rinaldo de Händel au Festival de Saintes en 1977. Ce festival qui en était à ses premières années et qui défrichait avec Alain Paquier à sa direction, entre autres.
Ah, quelle ambiance! Alors, l'abbaye aux Dames de Saintes, déjà, était quasi en ruine. Donc, il y avait, dans ce stage, alors, je me souviens d'une anecdote, il y avait les sacs-boutiers de Toulouse, il y avait
Jean-Pierre
Canillac, qui a eu cette phrase célèbre. Il y avait peu de salles en état de marcher même sur le sol, enfin, quasi insalubre. Et il avait décidé de chevaux orange, et il avait décidé de mettre sa partition sur la vitre et donner cours là. Et il donnait cours de cornet à bouquin. Et il dit à un étudiant, cette phrase est restée bien sûr dans les annales, il dit à un étudiant, putain, con, tu en as de la chance, toi, tu n'as que des progrès à faire. Voilà. Et c'est, donc, bon, voilà, c'était ce genre de personnage. Et oui, je me souviens de cette année-là parce que j'ai donc joué Rinaldo de Händel et il y avait une sacrée brochette puisqu'il y avait, Cotrebache, il y avait Cold, il y avait
Paul Eastwood.
Paul Eastwood, il y avait Brett, Charles Brett, il devait être là aussi. Donc, totalement magique. Et moi, j'étais au fond de l'orchestre, hein, j'étais l'apprenti. Et là, donc là, j'ai découvert, évidemment, ça, c'est ça aussi, quelle découverte, que chez Handel, tous les incipits sont faits à l'orchestre avant que le chant dise le texte et chante, effectivement. Même si c'est écrit ta-ta-tin, ta-ta-tin, bien, si c'est rejoice, rejoice, on va pas pouvoir jouer des notes égales. Voilà, j'ai appris ça. On lit aussi la partition différemment, avec le texte du chanteur, avec les accents toniques, avec l'énergie du texte aussi. Les temps forts, les temps faibles, et puis la courbe mélodique. Donc voilà, là, ça aussi, j'ai découvert. Je découvrais tout ça, donc physiquement, c'est-à-dire comment faire avec l'archet, avec la main gauche, faire du mezza di voce, vibrer la note à la fin, comme fait un chanteur avec son texte. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de ne pas vibrer, parce que dans tous les traités du violon, c'est des traités de chant. On explique très bien le vibrato et toutes les sortes de vibrato possibles, aidé par l'archet, c'est pas seulement la main gauche, voilà. Donc tout ça, j'ai découvert là, c'était, oh là là, génial.
Et cette ambiance de sainte, c'était un peu comme on dit, l'image qu'on en a aujourd'hui, un peu auberge espagnole, vous débarquiez là-bas pour quelques jours, comment ça se passait?
Ah oui, c'était l'auberge espagnole, la liberté, on avait des grandes robes indiennes, des sabots, enfin c'était la mode hippie quand même. Mon papa, bah, depuis qu'il avait initié la grande écurie et la chambre du roi, il avait changé de look. Hein, il était dans un look très libertaire, t-shirt à fleurs, des barrettes au pantalon parce qu'il faisait pas ses, il n'a jamais fait d'ailleurs d'ourlet, ni sa maman ni sa femme ne lui faisaient plus. Donc c'était une ambiance assez hippie, hein, oui c'est vrai.
Est-ce que vous aviez conscience quand même, vous étiez des drôles de zigotos dans le monde du classique de l'époque?
Ah oui, oui, tout à fait. Puis je pense que c'était revendiqué. C'était anti-dogme, anti-queue-de-pie, anti-bourgeois, anti... C'était tout à fait revendiqué par les musiciens. Et puis, je me souviens de cette année-là, il y a eu un concert avec Jordi Savall et Montse, où j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Tellement c'était beau, mais c'était tellement beau.
Jacopo Peri, le Lamento di Iole par Montserrat Figueras, soprano, et Tone Kopman au clavecin. Fin du deuxième épisode de ces grands entretiens où nous aurons assisté au premier pas de Florence Malgoire au Festival de Saintes dans la grande écurie et la chambre du roi dirigée par Jean-Claude Malgoire. Réalisation Gilles Blanchard avec Marie-Christine Ferdinand, Thomas Robine et Benjamin Vignal. La suite de ce portrait qui se réécoute et ce podcast sur l'application Radio France et francemusique.fr demain.
À réécouter sur francemusique.fr.